nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Paru en 1979 dans sa version originale italienne, traduite en 1981 pour les éditions du Seuil par Daniel Salnave et François Val, Si par une nuit d'hiver un voyageur est un roman d'Italo Calvino. En résumé, le propos constitue une sorte de gageure. Pour faire simple, on peut dire qu'il fonctionne sur un principe de mise en abîme et d'enchâssement des récits et qu'il raconte l'histoire de deux personnages, le lecteur avec un L majuscule et la lectrice, tous deux à la recherche d'un exemplaire complet d'un livre qu'ils viennent d'acheter, connu sous le titre « Si par une nuit d'hiver un voyageur », écrit par un certain Italo Calvino. Pour des raisons diverses et variées, ils ne parviennent jamais à le trouver et ne font que recommencer, à chaque chapitre, la lecture d'un nouveau roman. Les débuts de chacun de ces nouveaux romans constituent la matière des chapitres portant pour titre l'incipit de chacun d'eux, tandis que des chapitres numérotés, sans titre quant à eux, constituent en quelque sorte le récit cadre du livre, celui qui raconte les aventures du lecteur avec un L majuscule. Si vous n'avez pas lu ce roman, il y a fort à parier que le résumé qui vient d'en être fait ne vous aura que peu éclairé. Écoutez donc plutôt l'émission qui va suivre, composée quant à elle d'une alternance entre des lectures d'extraits et les éclairages qu'en faisait Italo Calvino lui-même, interrogé par Evelyne Frémy. Un livre des voix, Si par une nuit d'hiver un voyageur, première diffusion sur France Culture le 19 février 1981.
Chapitre 1. Tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino, Si par une nuit d'hiver un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée, laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. La porte, il vaut mieux la fermer, de l'autre côté la télévision est toujours allumée. Dis-le tout de suite aux autres, non je ne veux pas regarder la télévision. Parle plus fort s'ils ne t'entendent pas, je lis, je ne veux pas être dérangé. Avec tout ce chahut, ils ne t'ont peut-être pas entendu. Dis-le plus fort, crie, je commence le nouveau roman d'Italo Calvino. Ou si tu préfères, ne dis rien. Espérons qu'ils te laisseront en paix. Prends la position la plus confortable. Assis, étendu, pelotonné, couché. Couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre. Dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf. Ou dans un hamac, si tu en as un. Sur ton lit, naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas, en position de yoga, en tenant le livre à l'envers, évidemment. Il n'est pas facile de trouver la position idéale pour lire. C'est vrai. Autrefois, on lisait debout, devant un lutrin. Se tenir debout, c'était l'habitude. C'est ainsi qu'on se reposait quand on était fatigué d'aller à cheval. Personne n'a jamais eu l'idée de lire à cheval. Et pourtant, lire bien droit sur ses étriers, le livre posé sur la crinière du cheval, ou même fixé à ses oreilles par un harnachement spécial, l'idée te paraît plaisante. On devrait être très bien pour lire les pieds dans des étriers. Avoir les pieds levés est la première condition pour jouir d'une lecture. Bien. Qu'est-ce que tu attends? Allonge les jambes. Pose les pieds sur un coussin, sur deux coussins, sur les bras du canapé, sur les oreilles du fauteuil, sur la table à thé, sur le bureau, le piano, la map monde. Mais d'abord, ôte tes chaussures si tu veux rester les pieds levés. Sinon, remets-les. Mais ne reste pas là, tes chaussures dans une main et le livre dans l'autre. Règle la lumière de façon à ne pas te fatiguer la vue. En fais-le tout de suite, car dès que tu seras plongé dans la lecture, il n'y aura plus moyen de te faire bouger. Arrange-toi pour que la page ne reste pas dans l'ombre, un amas de lettres noires sur fond gris, uniforme comme une armée de souris. Mais veille bien à ce qu'il ne tombe pas dessus une lumière trop forte qui, en se reflétant sur la blancheur crue du papier, y ronge l'ombre des caractères, comme sur une façade le soleil du sud à midi. Essaye de prévoir dès maintenant tout ce qui peut t'éviter d'interrompre ta lecture. Si tu fumes, les cigarettes, le cendrier, à portée de main. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu as envie de faire pipi? À toi de voir. Ce n'est pas que tu attendes quelque chose de particulier de ce livre particulier. Tu es un homme qui, par principe, n'attend plus rien de rien. Il y a tant de gens, plus jeunes que toi ou moins jeunes, dont la vie se passe dans l'attente d'expériences extraordinaires, avec les livres, les personnes, les voyages, les événements, tout ce que l'avenir garde en réserve. Toi, non. Tu sais que le mieux qu'on puisse espérer, c'est d'éviter le pire. C'est la conclusion à laquelle tu es arrivé dans ta vie privée, comme pour les problèmes plus généraux et même mondiaux. Et avec les livres ? Justement, comme tu y as renoncé dans tous les autres domaines, tu crois pouvoir te permettre le plaisir juvénile de l'expectative, au moins dans un secteur bien circonscrit, comme celui des livres, à tes risques et périls. La déconvenue n'est pas bien grave. Donc, tu as lu dans un journal que venait de paraître, si par une nuit d'hiver, un voyageur, le nouveau livre d'Italo Calvino, qui n'avait rien publié depuis quelques années. Tu es passé dans une librairie et tu as acheté le volume. Tu as bien fait.
Italo Calvino, nous venons d'entendre un extrait du premier chapitre. C'est en quelque sorte une préface dans laquelle vous vous adressez au lecteur éventuel et vous l'incitez à se mettre dans les meilleures conditions possibles pour lire votre livre. C'est ça, hein, en gros.
Je dois dire qu'on entre tout de suite dans l'histoire. Ce n'est pas une préface parce que tout le livre est écrit de cette façon.
Oui.
C'est-à-dire, le lecteur est le héros de ce livre.
Oui.
Et c'est au lecteur qui arrive des aventures plus romanesques encore que celles qui racontait dans le roman qu'il lit. Et de quelque façon, je pense que le lecteur qui lit le livre, le lecteur réel, doit s'identifier avec le lecteur qui a lu. C'est-à-dire, je n'ai pas fait de ce lecteur un personnage. J'ai laissé presque un vide, comme dans les anciens ateliers de photographes, il y avait des décors dans lesquels l'homme photographié pouvait mettre sa face sur son visage pour être photographié. Et moi, j'ai laissé un vide à la place du visage et même de la psychologie de ce personnage lecteur.
À la fin de ce chapitre, de ce premier chapitre, vous dites également « C'est un auteur qui change beaucoup d'un livre à l'autre et c'est justement à cela qu'on le reconnaît. » Et là, il s'agit de vous, donc. Hein?
Mais il faut dire que moi, je cherche de faire toujours des choses différentes.
Par rapport à vos autres romans,
oui,
par exemple.
Oui, parce que quand j'ai fini un livre, j'ai envie d'écrire quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je change beaucoup ma technique, la forme même du récit d'un livre à l'autre.
Là, je vois sur la couverture, il y a à peu près 12 ouvrages. Est-ce que tous vos livres ont été traduits en français?
Je pense que presque tout
presque
a été
tous.
Traduit maintenant, oui. Maintenant, même des œuvres de jeunesse qui n'étaient pas traduites et traduites à ce temps-là, maintenant, ont été publiées, notamment par Julliard. Oui.
Vous disiez tout à l'heure que vous aimez changer de technique d'un livre à l'autre.
Mais là, oui, parce que écrire, ce n'est pas une chose amusante.
Et, ah bon? Si,
et j'aime beaucoup monter des machines. Dans mes derniers romans, je monte des machines très compliquées, mais j'espère qu'elles restent compliquées pour moi, mais pas pour le lecteur.
Et là, vous vous êtes beaucoup amusé pour écrire ce livre, non?
Oui, j'ai aussi travaillé.
Oui,
mais j'espère
bien sûr.
Que les. Mon souci, c'est que le résultat soit amusant. La question, si je m'amuse ou pas, ça, c'est ma question.
Si vous voulez, avant d'aller plus loin, on va écouter le début de ce qui devrait être, si par une nuit d'hiver, un voyageur.
Le roman commence dans une gare de chemin de fer. Une locomotive souffle. Un sifflement de piston couvre l'ouverture du chapitre. Un nuage de fumée cache en partie le premier alinéa. Dans l'odeur de gare passe une bouffée d'odeur de buffet. Quelqu'un regarde à travers les vitres embuées, ouvre la porte vitrée du bar. Tout est brumeux à l'intérieur, comme vu à travers des yeux de myope ou que des escarbillons irrités. Ce sont les pages du livre qui sont embuées, comme les vitres d'un vieux train. C'est sur les phrases que se pose le nuage de fumée. Soir pluvieux. L'homme entre dans le bar, déboutonne son pardessus humide. Un nuage de vapeur l'enveloppe. Un coup de sifflet s'éloigne le long des voies luisantes de pluie à perte de vue. Quelque chose comme un sifflet de locomotive ou un jet de vapeur sort du percolateur que le vieil employé met sous pression, comme il lancerait un signal. C'est du moins ce qui résulte de la succession des phrases du second alinéa, où les joueurs attablés replient contre leur poitrine l'éventail de leurs cartes et se tournent vers le nouveau venu avec une triple torsion du cou, des épaules et de leur chaise, tandis que d'autres consommateurs au comptoir soulèvent leurs petites tasses et soufflent à la surface du café, les lèvres et les yeux entrouverts, ou bien aspirent le trop-plein de leur chope de bière avec des précautions extrêmes pour ne rien laisser déborder. Le chat fait le gros dos. La caissière ferme la caisse enregistreuse qui fait « dring ». Tout signe qui tend à vous informer qu'il s'agit d'une de ces petites gares de province où celui qui arrive est aussitôt remarqué. Les gares se ressemblent toutes. Peu importe que les lampes ne parviennent pas à éclairer au-delà d'un halo imprécis. C'est une atmosphère que tu connais par cœur, avec son odeur de train qui subsiste bien après le départ de tous les trains. L'odeur spéciale des gares après le départ du dernier train. Les lumières de la gare et les phrases que tu lis semblent avoir la tâche de dissoudre les choses plutôt que de les montrer. Tout émerge d'un voile d'obscurité et de brouillard. Cette gare, j'y ai débarqué ce soir pour la première fois, et il me semble déjà y avoir passé toute une vie, entrant et sortant de ce bar, passant de l'odeur de la verrière à celle de sueur mouillée des toilettes, le tout mélangé dans une unique odeur qui est celle de l'attente. L'odeur des cabines téléphoniques, quand il ne reste plus qu'à récupérer les jetons, puisque le numéro ne donne pas signe de vie. L'homme qui va et vient entre le bar et la cabine téléphonique, c'est moi. Ou plutôt, cet homme s'appelle moi. Et tu ne sais rien d'autre de lui. Juste comme cette gare s'appelle seulement « gare », et en dehors d'elle, il n'existe rien d'autre que le signal sans réponse d'un téléphone qui sonne dans une pièce obscure d'une ville lointaine. Je raccroche. J'attends le crépitement de la ferraille qui descend à travers la gorge de métal. De nouveau, je pousse la porte vitrée. Je me dirige vers les tasses, mises à sécher en pile dans un nuage de vapeur.
Votre lecteur a commencé, si par une nuit d'hiver, un voyageur. Et il s'aperçoit, au bout d'un moment, qu'il y a une erreur de pagination, c'est ça, hein ? Il est tout d'un coup à la page 17 ou à la page 32, ça saute à la page 17, il y a un problème, là. Et à ce moment-là, il retourne chez le libraire. Qu'est-ce qui se passe, là ?
Il retourne chez le libraire et découvre que tout le tirage du livre a été... Mal fait, oui. Et il apprend aussi que ce n'était pas le livre qu'il croyait de lire, mais c'est une autre, c'est un roman polonais.
Voilà.
Et alors il dit, mais moi je veux suivre le roman que j'ai commencé. Et alors il prend ce prétendu roman polonais. Et bien, ils arrivent maintenant. Je crois que nous ne devons pas raconter toute l'histoire, mais il arrive toujours que quand ils commencent
à lire
un roman,
c'est
autre chose.
Voilà, où il manque des pages, où tout d'un coup on trouve les personnages d'un autre livre, écrit à un autre moment, et alors... Ce qui vous a permis, finalement, à l'intérieur d'un roman, d'en écrire plusieurs.
Oui, oui, il y a 10 débuts de roman.
Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu un exercice de style en même temps?
Eh oui, oui, je crois que Raymond Queneau avait écrit 99 fois...
Oui. La même histoire.
La même histoire, c'était un épisode de peu de lignes. En 99 styles différents.
Là, c'est pas la même histoire.
Là, c'est pas la même histoire, mais il y a des constantes.
Quels sont alors ces liens, ces constantes?
J'ai choisi une situation romanesque type, c'est-à-dire il y a un homme qui se trouve dans une situation qui n'est pas la sienne, et qui, pour amour d'une femme, se trouve face à une menace, mystérieuse d'une collectivité dangereuse. Et ça, c'est la situation qui est traitée dans 10 différentes façons. Chacune de ces histoires, un genre de roman, un genre romanesque contemporain. C'est pas une parodie d'un auteur défini, mais c'est un espace littéraire, disons. Et ça correspond aussi à 10 attitudes envers le monde.
Bien sûr.
Vous êtes venu pour votre manuscrit. Il est en lecture. Non, je me trompe. Il a été lu, et avec intérêt. Bien sûr que je me rappelle. Une patte linguistique remarquable. Une authentique révolte. Vous n'avez pas reçu une autre lettre? Nous regrettons pourtant de devoir vous informer. Tout cela était dans la lettre. Et il y a un moment déjà que nous l'avons expédiée. Le courrier a toujours du retard. Vous la recevrez, ne vous inquiétez pas. Notre programme d'édition trop chargé, la conjoncture défavorable. Hein? Vous voyez que vous l'avez reçu? Et que disait-elle de plus? Vous remerciant de nous avoir donné à lire votre manuscrit, nous vous le faisons retourner. Vous venez le reprendre. Non, nous ne l'avons pas retrouvé. Un peu de patience, on finira bien par le retrouver, n'ayez pas peur. Ici, on ne perd jamais rien. Nous venons tout juste de retrouver des manuscrits que nous cherchions depuis 10 ans. Avant 10 ans. Nous retrouverons le vôtre, bien avant. Enfin, du moins, espérons-le. Nous avons tant de manuscrits. Des piles hautes comme ça. Si vous voulez, je peux vous les montrer. Vous voulez le vôtre. Cela se comprend. Et pas un autre, il ne manquerait plus que ça. Je voulais dire que nous en gardons tout un tas dont nous ne savons que faire. Alors croyez bien que le vôtre, nous n'allons pas le jeter. Nous y tenons trop. Non pas pour le publier, pour vous le rendre.
Celui qui parle ainsi est un petit homme sec et voûté, qui semble se dessécher et se voûter un peu plus chaque fois que quelqu'un l'appelle, le tire par la manche, lui soumet un problème, lui pose sur les bras une pile d'épreuves. « Dottore Cavedagna, s'il vous plaît, Dottore Cavedagna, demandons au Dottore Cavedagna. » Et lui, chaque fois, concentre toute son attention sur la question du dernier interlocuteur, les yeux fixes, le menton tremblant, le cou ployé sous l'effort de tenir en réserve, sans les oublier, toutes les questions non encore résolues, avec cette patience douloureuse qu'ont les personnes trop nerveuses, et cette nervosité électronique qu'ont les personnes patientes à l'excès. Quand tu es entré dans la maison d'édition, et que tu as exposé aux huissiers la question des volumes mal brochés que tu voulais échanger, ils t'ont d'abord dit de t'adresser au service commercial. lorsque tu as ajouté que tu ne voulais pas seulement échanger, mais aussi qu'on t'explique ce qui s'était passé, on t'a adressé au service technique ou de fabrication. Et quand tu as précisé que ton objectif principal était de continuer les romans interrompus, ils ont conclu « Alors il vaut mieux que vous alliez voir le dottore Cavedagna. Veuillez entrer dans l'antichambre, il y a déjà des gens. Attendez votre tour. » En prenant place parmi les autres visiteurs, tu as entendu Cavedagna recommencer plusieurs fois l'histoire du manuscrit qu'on ne retrouve pas, en l'adressant chaque fois à un interlocuteur différent, toi compris. Et chaque fois, avant de s'être par lui-même aperçu de l'équivoque, il a été interrompu par le visiteur, le rédacteur ou l'employé. Tu as tout de suite compris que le dottore Cavedagna est ce personnage indispensable dans l'organisation de toute entreprise, sur les épaules de qui ses collègues tendent instinctivement à se décharger des tâches les plus épineuses et compliquées. À peine as-tu commencé à lui parler, que quelqu'un vient lui apporter le plan de publication des 5 prochaines années pour qu'il le revoie. Un index où tous les numéros de pages doivent être changés. Une édition de Dostoïevski à recomposer de fond en comble parce que chaque fois qu'on a imprimé Maria, il faut maintenant écrire Maria. Et chaque fois qu'on a écrit Piotr, c'est désormais Petr qui est correct. Il écoute tout le monde avec attention. Toujours ennuyé, cependant, d'avoir coupé au beau milieu de la conversation qu'il avait avec un autre requérant. Dès qu'il le peut, il essaie de calmer les plus impatients en les assurant qu'il ne les a pas oubliés, qu'il pense toujours à leur affaire.
Nous avons vivement apprécié l'atmosphère fantastique.
Comment ? Sursaute un historien des scissions trotskistes en Nouvelle-Zélande.
Peut-être faudrait-il atténuer légèrement le caractère scatologique des images.
Mais qu'est-ce que vous dites là ? Proteste un spécialiste de la macroéconomie des oligopoles. Soudain, le docteur Cavedagna disparaît. Les couloirs de la maison d'édition sont pleins de pièges. Il y rôde des collectifs théâtraux d'hôpitaux psychiatriques, des groupes qui s'adonnent à la psychanalyse de groupe, des commandos de féministes. Cavedagna risque à chaque pas d'être assiégé, capturé, happé. Tu es tombé ici, à un moment où ceux qui gravitent autour des maisons d'édition ne sont plus seulement des aspirants poètes ou romanciers, des candidates poétesses ou romancières. C'est le moment, dans l'histoire de la culture occidentale, où ceux qui cherchent à se réaliser sur du papier ne sont plus des individus isolés, mais des collectivités, séminaires d'études, groupes de recherche, équipes, comme si le travail intellectuel était trop désolant pour pouvoir être affronté dans la solitude. La figure de l'auteur est devenue plurielle et se déplace toujours en groupe, parce que, en plus, personne ne peut représenter personne. 4 ex-détenus, dont un évadé, 3 ex-hospitalisés avec leur infirmier, le manuscrit de ce dernier. Ou bien ce sont des couples. Pas nécessairement, mais souvent le mari et la femme, comme si la vie à deux n'avait pas de soutien plus puissant que la production de manuscrits. Chacun de ces personnages a demandé à parler aux responsables d'un secteur ou d'une branche donnée, mais pour finir, tous sont reçus par le dottore Cavedagna. Des vagues de discours où affluent les lexiques des disciplines et des écoles de pensée les plus spécialisées, les plus fermées, se déversent sur le vieux rédacteur qu'au premier coup d'œil tu as défini comme un petit homme sec et voûté. Non qu'il soit plus petit, plus voûté, plus sec que tant d'autres, ou que les mots « petit homme sec et voûté » fassent partie de sa manière de s'exprimer, mais parce qu'il semble sortir tout droit d'un monde ou encore... Non... d'un livre où l'on rencontre encore. C'est ça, il semble sortir d'un monde où on lit encore des livres où l'on rencontre de petits hommes secs et voûtés. Sans se laisser déconcerter, il laisse les problématiques glisser sur sa calvitie, secoue la tête et cherche à réduire chaque question à ses aspects les plus pratiques.
Mais est-ce que vous ne pourriez pas, dites-moi, faire entrer dans le texte les notes en bas de page et concentrer le texte un petit peu ? Non, qu'en pensez-vous ? Et puis, le mettre comme note en bas de page.
Je suis un lecteur, seulement un lecteur, pas un auteur. Te hâtes-tu d'annoncer comment on se précipite au secours de quelqu'un qui va faire un faux pas ?
Ah, bon, bravo, bravo, je suis bien content.
Le coup d'œil qu'il te jette est vraiment plein de gratitude et de sympathie.
Vous me faites plaisir. De vrais lecteurs, j'en rencontre de moins en moins.
Le voilà en veine de confidence. Il se laisse emporter, il oublie d'autres obligations, il te prend à part.
Cette maison d'édition, j'y travaille depuis tant d'années, et tant de livres me passent entre les mains. Est-ce que je peux dire ce que je lis ? C'est pas ce que j'appelle lire, ça. Dans mon village, il n'y avait que peu de livres, mais je lisais. Alors oui, je peux dire que je lisais. Je me dis toujours que quand je serai à la retraite, je retournerai dans mon village et que je me remettrai à lire comme avant. De temps en temps, je mets un livre de côté, je me dis, celui-là, je me le réserve. Je le lirai quand je serai à la retraite. Et puis je pense que non, ce ne sera pas la même chose. Cette nuit, j'ai fait un rêve. Dans mon village, dans le poulailler de ma maison, je cherchais quelque chose dans le poulailler, dans la corbeille où les poules font leurs œufs. Et qu'est-ce que je trouve ? Un livre. Un de ces livres que j'ai lus enfant. Une édition populaire, les pages en lambeaux, avec des gravures en noir et blanc que j'avais coloriées au crayon de couleur. Je vais vous dire. Enfant, je me cachais pour lire dans le poulailler.
Tu essayes de lui expliquer le motif de ta visite. Il saisit au vol et ne te laisse même pas continuer.
Alors vous aussi ? Vous aussi, ce cahier mélangé. Nous étions au courant des livres qui commencent et ne continuent pas, toute la production de la maison ces derniers temps et sans dessus-dessous. Vous y comprenez quelque chose, vous ? Nous n'y comprenons rien de rien, mon cher monsieur.
Il tient entre ses bras une pile d'épreuves. Il la pose délicatement, comme si la moindre secousse risquait de mélanger des caractères typographiques si bien ordonnés.
Une maison d'édition est un organisme fragile, cher monsieur. Il suffit qu'en un point quelconque, quelque chose se détraque et le désordre s'étend, le chaos s'ouvre sous nos pieds. Pardonnez-moi, quand j'y pense, cela me donne le vertige.
Et il se cache les yeux, comme pour échapper à la vision de ces milliers de pages, de lignes, de mots qui tourbillonnent dans un nuage de poussière. Allons, allons, dottore Cavedania, ne le prenez pas ainsi. Il faut que ce soit toi qui le console à présent. C'était une simple curiosité de lecteur, mais si vous ne pouvez rien me dire...
Ce que je sais, je vais vous le dire bien volontiers. Écoutez. La chose a commencé quand s'est présenté à la maison d'édition un jeune homme qui prétendait être traducteur.
Le passage qu'on vient d'entendre se passe donc dans une maison d'édition. C'est une parodie un peu du milieu littéraire actuel.
Bien, j'ai passé une grande partie de ma vie dans des maisons d'édition,
oui.
Dans une maison d'édition en particulier. Je n'ai pas fait une description d'une maison d'édition particulière,
oui.
mais il y a, on parle de ce qu'on connaît.
Bien sûr, oui.
Et c'est un peu une caricature du milieu éditorial.
Vous parlez aussi des romanciers actuels. Il me semble enfin avoir compris que vous trouviez un petit peu que les romanciers actuellement se recrutaient en milieu un petit peu fermé, non ? Soit parmi les journalistes, soit par les gens qui ne s'occupent que de littérature. C'est pas un petit peu ça ?
Non, j'ai dit que, bien, il y a des réflexions sur le travail éditorial, sur le fait de devoir lire, parce que notre boulot,
c'est
ça. Il nous manque dans ce travail la lecture désintéressée et
oui.
On a la nostalgie du temps quand on lisait des livres seulement
c'est
pour
ça,
le
oui.
plaisir de lire. Et ça, c'est une chose que je dis.
Donc ça peut être un peu desséchant, quoi, à la limite,
oui,
un petit peu.
Oui, mais dans la maison d'édition, je ne parle presque pas de littérature, je parle de livres écrits en équipe.
Oui,
mais
c'est ça.
Ce sont plus de livres, des enquêtes sociales, de livres d'études, disons.
Mais à d'autres pages, vous parlez plus particulièrement des écrivains.
Des écrivains, bien, il y a un personnage d'écrivain, mais qui est une sorte d'écrivain de roman d'espionnage ou de roman de série noire,
oui.
Un écrivain de succès très commercial, qui est pris par une crise spirituelle. Vous savez, mon livre ne parle pas de littérature, mais de romans de consommation.
Mmh.
Et parce que Je suis très intéressé aux romans populaires, mais je pense que j'emploie une conscience de critique et de moyens d'expression appliqués à tout genre de romans. Cet écrivain très productif, cet écrivain de consommation, se double d'un écrivain tourmenté, d'un écrivain en crise, d'un écrivain problématique. Alors, il devient un étrange monstre, ce personnage d'écrivain.
Et c'est un peu vous, ça, non?
Bien. Je suis un peu dans tous les personnages.
Oui, pas plus dans celui-là, non?
Mais il est un personnage très différent de moi. C'est un moi, j'écris très peu. Et ceci, c'est un écrivain c'est une espèce de je ne sais pas, de Simenon ou de Le Carré. Oui.
D'accord.
Comment savoir ce que tu es, lectrice? Il est temps que ce livre à la seconde personne ne s'adresse plus seulement à un tu masculin générique, le semblable peut-être ou le frère d'un moi hypocrite, qu'il s'adresse directement à toi, qui a fait ton entrée à la fin du second chapitre comme tierce personne nécessaire pour que ce roman soit un roman. Pour qu'entre la seconde personne au masculin et la troisième personne au féminin, quelque chose advienne, prenne forme, s'affirme ou se gâte, selon les phases habituelles des aventures humaines, ou plutôt selon les modèles mentaux à travers lesquels ces aventures nous les vivons. Ou plutôt, selon les modèles mentaux à travers lesquels nous attribuons aux aventures humaines un sens qui nous permet de les vivre. Ce livre a jusqu'à maintenant pris bien soin de laisser ouverte au lecteur qui lit la possibilité de s'identifier au lecteur qui est lu. Pour cette raison, il n'a pas été donné à ce dernier un nom qui automatiquement leur est assimilé à une tierce personne, à un personnage. Alors qu'à toi, en tant que troisième personne, il a été nécessaire de t'attribuer un nom, Ludmila. Il a été maintenu dans la catégorie abstraite des pronoms, disponible pour tout attribut et toute action. Voyons si le livre pourra tracer de toi, Ludmila, un portrait véritable, en partant du cadre pour se resserrer peu à peu sur toi et déterminer les contours de ton image. Tu es apparu pour la première fois au lecteur dans une librairie. C'est en te détachant sur un fond de rayonnage que tu as pris forme, comme si la quantité des livres avait rendu nécessaire la présence d'une lectrice. Ton appartement, c'est le lieu où tu lis. Il peut nous dire la place que les livres tiennent dans ta vie, s'ils sont une défense que tu opposes au monde extérieur, un rêve où tu t'absorbes, comme une drogue, ou au contraire autant de ponts que tu jettes vers l'extérieur, vers un monde qui t'intéresse au point que tu veuilles en multiplier et en élargir, grâce aux livres, les dimensions. Pour en juger, le lecteur sait que la première chose à faire est de visiter la cuisine. La cuisine est la partie de la maison qui peut dire le plus de choses sur toi. Si tu te fais à manger ou non, on dirait que oui, pas tous les jours, mais fréquemment. Si c'est pour toi seul ou pour d'autres aussi, souvent pour toi seul, mais avec soin, comme si c'était pour d'autres aussi, et quelquefois aussi pour d'autres, mais avec désinvolture, comme si c'était pour toi seul. Si tu te limites au minimum, à l'indispensable, ou si tu as du goût pour la gastronomie, tes achats et tes ustensiles suggèrent des recettes élaborées, originales, au moins dans tes intentions. Il n'est pas sûr que tu sois gourmande, mais l'idée de dîner de deux œufs au plat ne te sourit guère. Si c'est pour toi une nécessité pénible de se tenir devant des fourneaux, ou si tu y trouves un réel plaisir, la cuisine minuscule est équipée de manière qu'on puisse y bouger commodément et sans trop d'efforts. Le but est de ne pas s'y attarder trop, mais de s'y tenir sans déplaisir. Les appareils électroménagers sont à leur place d'animaux utiles, dont on ne peut oublier les mérites sans qu'on leur voue pourtant un culte spécial. Dans le choix des ustensiles, on remarque une certaine recherche esthétique, une panoplie de hachoirs de taille décroissante, quand un seul suffirait. Mais en général, les éléments décoratifs sont aussi des objets utiles et font peu de concessions au gratuit. Ce sont les provisions, surtout, qui peuvent nous apprendre quelque chose sur toi. Un assortiment d'herbes aromatiques, certaines d'usage courant, d'autres qui semblent là pour compléter une collection. On pourrait en dire autant des moutardes. Mais ce sont plus encore les colliers de tête d'ail suspendus à portée de main qui indiquent un rapport aux nourritures ni vague ni distrait. Un coup d'œil au réfrigérateur peut permettre de recueillir d'autres données, et précieuses. Dans le compartiment à eux, il ne reste qu'un œuf. En fait, citron, il n'y en a que la moitié d'un, et encore à moitié sec. On relève en somme une certaine négligence pour ce qui touche aux réapprovisionnements essentiels. Mais pour compenser, il y a de la crème de marron, des olives noires, un pot de salsifis. Lorsque tu fais les courses, il est manifeste que tu te laisses attirer par les marchandises que tu vois exposées au lieu de penser à ce qui manque à la maison. Ainsi, de l'observation de ta cuisine, peut-on retirer l'image d'une femme extravertie et lucide, sensuelle et méthodique, qui met son sens pratique au service de sa fantaisie. Quelqu'un pourrait-il tomber amoureux de toi, rien qu'à voir ta cuisine? Pourquoi pas? Le lecteur, peut-être. Il était déjà favorablement disposé.
Longtemps, donc, vous vous êtes adressé au lecteur, et puis tout à coup, vous vous adressez à la lectrice. Et finalement, ce lecteur et cette lectrice se trouvent rapprochés par leur recherche commune de livres, par leur amour de la lecture. Et il y a un passage que je trouve fort intéressant où vous comparez un petit peu la connaissance du livre à la connaissance des corps.
Des corps, oui, oui.
Qu'est-ce qu'il y a ? Expliquez-moi un peu ça.
Eh bien, je crois que je ne peux dire plus de ce que j'écris. J'ai tenté de faire une comparaison entre la lecture et l'amour.
L'amour, oui.
J'ai trouvé des ressemblances, je crois. Et la lecture est connaissance, comme l'amour aussi.
On lit le corps de l'autre comme on lit un livre.
Comme on lit un livre de quelque façon.
Oui, oui.
Et je pense que la lectrice est la vraie protagoniste du livre. Elle est plus personnage que le lecteur.
Oui, d'ailleurs, elle a un nom, elle, oui.
Elle a un nom. Elle n'a pas une attitude passive envers la lecture. Elle a, dans chaque chapitre, la lectrice énonce un désir de lecture qui est toujours différent. Elle n'est jamais satisfaite par ce qu'elle a lu. Elle dit « Non, je voudrais lire un roman pareil. » Elle définit ce qu'elle veut lire. Et le début du roman qui suit à ce chapitre, c'est toujours du genre que la lectrice a défini. C'est-à-dire que la lectrice est en même temps le moteur de toute cette machine, et elle est aussi la béatrice qui conduit le lecteur dans ce paradis de la lecture. Mais elle est toujours insatisfaite, elle cherche toujours quelque chose d'autre.
La lectrice est toujours insatisfaite, mais l'auteur semble aussi insatisfait dans la mesure où, je crois, à un moment, vous dites, enfin, en gros, que ce qui vous gêne entre vous et la lecture, entre l'écrivain et la lecture, c'est l'écrivain avec son vécu, avec tout ce qu'il possède. Vous voudriez passer directement à la lecture. C'est un peu complexe.
Oui, les livres ont un peu le rêve d'écrire des livres qui ne sont pas écrits par moi, mais qui sont les livres que j'aimerais lire.
Oui.
Et ça peut-être a été toujours ma démarche. Inventer un auteur qui n'est pas moi et le livre qu'il écrit.
Oui.
Et ici, il y a 10 livres qui... Si je devais signer directement avec ma signature, Je penserais que je n'ai pas le droit d'écrire, je ne sais pas, un roman japonais, un roman latino-américain. Il y a cette tentative de sortir de moi-même et de n'être qu'un moyen de transmission de la matière racontable.
À un moment, vous imaginez même, c'est pas vous d'ailleurs, mais c'est vous tout de même, vous imaginez que vous apercevez à travers une longue vue une lectrice et elle est en train de dire ce que vous êtes en train d'écrire. Là, il n'y a plus d'intermédiaire,
oui,
ça y est.
Oui. Et alors je donne au lecteur un rôle créateur.
Oui.
Ce sont les lecteurs qui font le livre.
Chapitre 12 et dernier. Lecteur et lectrice, vous êtes à présent mari et femme. Un grand lit conjugal accueille vos lectures parallèles. Ludmila ferme son livre, éteint sa lampe, abandonne sa tête sur l'oreiller et dit « Éteins toi aussi, tu n'es pas fatigué de lire ?» Et toi ? Encore un moment, je suis juste en train de finir « Si par une nuit d'hiver un voyageur » dit Italo Calvino.
C'était Un livre, des voix, Si par une nuit d'hiver un voyageur, d'Italo Calvino, une émission proposée et réalisée par Evelyne Frémy avec Italo Calvino. Lecture par Roger Bray et Gaëtan Jor, première diffusion le 19 février 1981. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger en ligne sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.